Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h en temps universel, 22h à SEK au Cameroun, chez Princesse Erika, 22h à Alger, chez Lina Mayem. Et 23h à Paris, et le journal est présenté par Delphine Liou. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, le procès fédéral de Donald Trump, une fois de plus repoussé par la Cour suprême. Pourquoi cette décision favorise l'ancien président américain? L'analyse de la spécialiste des États-Unis, Anne Desine, dans quelques instants. Nouveau coup de théâtre en Bolivie, l'ancien président Evo Morales accuse le président Luis Arce d'être derrière le coup d'État raté de mercredi dernier. Ça ressemble à un auto-coup d'État, dit-il, nous l'entendrons dans ce journal. Et puis en France, après le coup de tonnerre du premier tour et l'arrivée en tête de l'extrême droite, coup de projecteur sur le vote des Français de l'étranger, un vote très différent de celui des Français de l'Hexagone et des Dom-Toms. Une grande victoire pour notre démocratie et notre constitution. Voilà comment Donald Trump a accueilli tout à l'heure la décision de la Cour suprême américaine de renvoyer aux juridictions inférieures la question de son immunité pénale en tant qu'ex-président. Pour rappel, Donald Trump est accusé d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden. Cette décision de la Cour suprême retarde en tout cas la tenue de son procès fédéral à Washington. Peu de chances que ce procès puisse se tenir avant l'élection présidentielle de novembre prochain. Pour la juriste et spécialiste des États-Unis, Anne Desine, c'est effectivement une victoire pour le camp Trump.
Ce que fait la Cour, elle renvoie à la juridiction de première instance. C'est malheureusement, une fois de plus, très politique et très partisan. C'est une décision qui est rendue par 6 voix, celle des 6 pseudo-conservateurs, mais un petit peu radicaux, contre les 3 progressistes qui écrivent des choses très très dures sur le contenu de la décision. En ayant refusé de prendre l'affaire en urgence et en ayant pris tellement de temps pour statuer, la Cour suprême a joué dans le camp de Trump en mettant en jeu ses manœuvres dilatoires. C'est-à-dire que ça sera très difficile d'avoir même un début de procès avant l'élection en raison de tous ces retards.
L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui a commencé à purger sa peine de prison. Il avait refusé de coopérer à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 et avait été condamné en octobre 2022 pour entrave au pouvoir d'enquête du Congrès à 4 mois de prison. En Bolivie, nouvel épisode dans la saga du coup d'État raté de mercredi dernier. L'ancien président Evo Morales accuse carrément le président actuel Luis Arce, surnommé Lucho, d'avoir fomenté l'opération. On l'écoute.
Lucho n'a pas respecté la vérité, il nous a trompés, il a menti, non seulement au peuple bolivien, mais au monde entier. Lucho va laisser la présidence à la junte militaire, il ne peut pas la laisser à Evo Morales. La seule façon pour Evo de ne pas être président est de laisser la présidence à la junte militaire. Je pensais que c'était un coup d'État, mais maintenant je doute, ça ressemble à un auto-coup d'État.
Evo Morales, l'ancien président bolivien, pour rappel, Luis Arce, avait été son ministre des Finances, mais les deux hommes se sont brouillés depuis et sont en concurrence au sein du parti au pouvoir en vue de l'investiture à la présidentielle l'année prochaine. Des dizaines de prisonniers palestiniens libérés ce lundi par Israël et transférés vers des centres médicaux de Gaza. Parmi eux, le directeur de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital du territoire palestinien. Mohamed Abu Salmiya a été détenu pendant 7 mois et il accuse aujourd'hui l'État hébreu de torture. Israël indique enquêter sur ces indications. Par ailleurs, l'armée israélienne a ordonné ce lundi l'évacuation de plusieurs secteurs du sud de la bande de Gaza où des centaines de milliers de Palestiniens avaient déjà fui au mois de mai après le tir d'une salve de roquettes vers Israël depuis cette région. Et en Ukraine, le lent grignotage russe se poursuit. Moscou revendique ce lundi la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays. Les forces russes profitent des difficultés de l'armée ukrainienne à regarnir ses rangs et à obtenir davantage d'armes et de munitions de la part des Occidentaux. Depuis samedi, elles ont annoncé la capture de 5 villages dans plusieurs secteurs du front. Et puis retour en France, où Gabriel Attal assume les désistements pour barrer la route à l'extrême droite. Invité du 20h de TF1, le Premier ministre a répété qu'une majorité absolue pour le Rassemblement national serait catastrophique pour les Français. Quelques 155 candidats engagés dans des triangulaires se sont déjà désistés afin de contrer le Rassemblement national, selon un décompte provisoire de l'AFP. Le président du RN, Jordan Bardella, lui dénonce une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre. Pour rappel, son parti est arrivé ce dimanche en tête du premier tour avec plus de 33% des voix, un score historique. Le Nouveau Front Populaire, l'Alliance de la France Insoumise, du Parti Socialiste, des Verts et du Parti Communiste enregistre près de 28% des voix. Enfin, cinglante défaite pour le parti présidentiel Renaissance qui ne recueille lui que 20,8% des voix. Les candidats encore en lice ont jusqu'à ce mardi 18h pour décider de se retirer et réduire ainsi drastiquement le nombre de triangulaires. Les Français de l'étranger se sont plus mobilisés qu'en 2022. Ils étaient 410 000 à voter, 160 000 de plus. Mais leur taux de participation, 29%, est lui beaucoup plus faible que les 66% de la moyenne nationale. Leur choix dans l'isoloir, lui, est bien différent de celui des Français en général. Marie Cazadbet.
Aucun candidat du Rassemblement national ne s'est qualifié dans aucune des 11 circonscriptions des Français de l'étranger, quand le RN fait un peu plus de 33% au niveau national. Tous les candidats sortants, en revanche, restent en lice pour le second tour. Dans 10 circonscriptions, il opposera un candidat de la majorité présidentielle au Nouveau Front Populaire. Le NFP arrive en tête dans 5 d'entre elles, Amérique centrale et sud, les 2 circonscriptions africaines, la 3e en Europe du Nord et la 4e au Benelux. Renaissance Ensemble arrive en tête dans les 5 autres, péninsule ibérique, Suisse et Liechtenstein, Europe centrale et la 11e qui compte plusieurs pays de l'Est, l'Océanie et une majeure partie de l'Asie. Configuration différente pour la 8e circonscription qui compte plusieurs pays d'Europe du Sud, la Turquie et Israël. Aucun candidat RN ne s'était présenté face au républicain Meir Habib. Il affrontera la candidate de la majorité présidentielle Caroline Yadan. Pour ce second tour, les Français de l'étranger pourront voter en ligne dès mercredi midi et jusqu'à jeudi 18h. Dans les bureaux de vote, ce sera samedi pour le continent américain, dimanche pour le reste du monde.
Et puis le soulagement des marchés après les résultats de ce premier tour. Le CAC 40 a progressé de 1,09%. L'indice vedette de la Bourse de Paris s'était pourtant indigné 4 séances consécutives de baisse la semaine dernière. Explication avec Christopher Dembic. Il est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
Le soulagement, c'est de se dire, on s'oriente a priori vers un gouvernement qui n'aura pas une majorité absolue, ce qui veut dire que certains éléments un peu anxiogènes des programmes économiques ne seront pas mis en œuvre. On va aller sur une forme de statu quo, bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir quel sera le gouvernement. Mais la réalité, c'est que dans tous les cas, le prochain gouvernement devra envoyer aussi des gages aux investisseurs étrangers, devra leur montrer qu'ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. On a cette question budgétaire aussi. Quand vous avez beaucoup de dettes, beaucoup de déficits, ben vous pouvez pas être trop dispendieux au niveau de vos dépenses. Donc il y aura finalement, le prochain gouvernement sera cornaqué, il aura assez peu de marge de manœuvre dans les faits. Pour les marchés, ils se disent, il faut mieux du statu quo qu'un saut complet dans l'inconnu.
Christopher Dembing, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et puis en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, réélu président au premier tour, le chef de l'État sortant a obtenu 56,1% des voix selon la Commission électorale nationale indépendante. Il devance largement son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Dahabeid, qui a recueilli 22,1% des suffrages. Mais ce dernier l'a annoncé ce dimanche, il ne reconnaîtra pas ses résultats, instrumentalisés selon lui par le pouvoir. Le candidat islamiste de Tawassul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, se classe lui troisième avec 12,8% des suffrages. Retour en France où la garde à vue de Benoît Jacquot et Jacques Doyon pourrait bien durer jusqu'à mardi soir. C'est ce que croient savoir des sources proches du dossier cité par l'agence France Presse. Les deux cinéastes sont entendus depuis 9h30 heure de Paris à la brigade de protection des mineurs. Ils sont accusés par plusieurs actrices dont Judith Godrèche de violences sexuelles. Les deux hommes contestent ces accusations. Les Bleus en quart de finale de l'Euro. L'équipe de France a battu la Belgique tout à l'heure à Düsseldorf à 5 minutes de la fin grâce à un but contre son camp du Belge Yann Vertonghen. Les Bleus rencontreront le vainqueur du